Imagine Arts présente.
Et bonjour à tous, et donc bienvenue pour cette pause café numéro 9. Donc j'espère que vous allez tous super bien. Il y a Johan qui demande, les professeurs doivent-ils se tenir à jour de la culture pop autour des arts martiaux? Donc forcément les anciens, ils connaissent Bruce Lee, mais les jeunes, ils parlent plutôt de Naruto par exemple. Donc vous en pensez quoi vous? Est-ce qu'on doit suivre en tant qu'enseignant la culture pop des arts martiaux? Donc bon, là, il parle de Naruto, donc c'est plus la catégorie enfant. La catégorie adulte va plus se tirer vers les Ip Man et ce genre de films à catégorie plus adulte que vers des mangas. Quoique je connais des adultes qui suivent les mangas. Quoi. Donc,
Après, je pense les adultes, peut-être pas nécessairement avoir des références filmographiques, mais... Peut-être regarder ce qui, être capable de regarder ce qui se fait ailleurs dans d'autres arts martiaux, pouvoir être capable de donner des fois des petits éléments de comparaison, que ce soit par exemple avec ce qu'on peut voir aujourd'hui des fois dans le MMA ou en jiu-jitsu, des formes un peu qu'on retrouve un peu similaires. Des fois, tu as des façons de faire par exemple en technique de sabre ou de clé en jiu-jitsu, hop, qu'on peut réappliquer aussi en karaté, c'est les mêmes mouvements. Plus une culture générale à ce niveau-là qui est intéressante et qui amène des choses. Après, les films, livres, je vois pas trop.
Moi, personnellement, mon point de vue là-dessus, c'est... J'aime bien avoir une culture générale sur les arts martiaux. Donc, après... Les filmographies, etc., ben, j'aime bien, donc je regarde, mais je suis pas... S'il y a autre chose de plus intéressant, je vais plus me tirer vers là, parce que ça tourne toujours autour des mêmes sujets, qui en plus n'ont pas vraiment de fait historique dessus, donc qui est vraiment ultra romancé. Et ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, c'est parce que j'avais un sujet, moi, à aborder, donc ça tombe bien. Donc ça permet d'avoir une culture, d'une part, pour garder le contact avec les gens. Question avec les enfants, ça change tellement vite. Par exemple, j'ai regardé, parce que je me rappelle avoir regardé un petit peu Naruto, parce que mon cousin m'en parlait, etc. Et donc c'était le ninja, etc. Donc je voulais comprendre de ce qu'il parlait. J'avais regardé deux, trois épisodes comme ça. Puis c'est super vieux, en fait, ça a presque 20 ans. Donc les premiers épisodes, même si ça revient au goût du jour, etc. Donc est-ce qu'on doit suivre cette tendance et avec tout ce qui va avec? Personnellement, je pense pas. Après, savoir que ça existe et connaître peut-être l'univers pour essayer d'avoir un peu d'empathie avec les enfants et leur dire ah ouais d'accord, connaître deux trois personnages, caractères, voilà, pour dire que bon, t'es pas un vieux sénile et que tu comprends rien, que t'es un dinosaure. Mais mis à part ça, tu vas pas refaire les histoires, je pense. Hein. Après, moi, c'est mon point de vue par rapport à ça, quoi. Après, je sais que j'ai une assistante, Valérie, qui elle aussi animatrice. Et quand elle fait des stages, quand elle prend des stages en entier sur toute une journée, elle établit des jeux de rôle, des jeux de poursuite, des jeux de trésors à travers la pratique, etc. Et en même temps, quoi, de se former. Et donc, elle fait référence de temps en temps à cette culture pop. Donc, c'est bien parce que ça permet aux enfants, quoi, de s'identifier dans la quête, etc. Mais il y a vraiment un aspect pédagogique qui est autre. C'est pour les amener dans une aventure et pour les déposer après, pour qu'ils puissent travailler. Donc, ça a un but pédagogique. Après, juste le connaître pour connaître, je sais pas trop, quoi. Donc, ça reste un peu... Chacun va voir midi à sa porte, je pense. Et toi, Erwan, t'en penses quoi?
J'ai pris un peu de cours, là. Donc, grosso modo, c'est savoir si on s'inspire...
On doit animer, non, jusqu'à... si on doit suivre, ouais. Si on doit suivre la culture pop, ouais. Tenir à jour.
12 ans, donc il est à fond Naruto, il est à fond Dragon Ball. Donc, ça me fait sourire, parce que moi, je regardais ça quand j'étais gamin. Donc, maintenant, il regarde ça, donc bon, c'est rigolo. Après, c'est plus facile quand on a des enfants, quoi. Si on suit naturellement le truc, si on n'a pas d'enfants, si on n'est pas dedans, c'est pas forcément évident de s'y intéresser non plus. Mais si tu enseignes les enfants, c'est peut-être pas mal quand même de connaître un peu leur univers, c'est sûr. que bon, les nouvelles générations, ouais, si t'es pas un peu quand même dans leur culture, tu vas passer pour un vieux, vieux coulant. Et puis...
c'est ça, c'est ça.
C'est plus facile encore une fois quand t'as des enfants.
Ouais, c'est de pouvoir avoir des enfants se permet vraiment. Moi, j'ai découvert là, tu vois, le monde des Pokémon, quoi, donc que je ne connaissais absolument pas. Mon fils, il a fond dedans, quoi, et me dit mais pourquoi tu le connais pas celui-là et tout. Donc, je suis obligé de me mettre à la page, quoi. Donc, il arrive avec son bouquin, il me dit ouais, c'est quoi son nom. Et après, ah mais je t'ai déjà demandé, tu t'en rappelles pas. Donc voilà, c'est marrant, quoi. Mais je me serais jamais intéressé aux Pokémon, quoi, si j'avais pas eu mon fils. Donc et pourtant, je sais qu'ils en parlent en cours et que certains en parlent, etc. Les tout-petits, les 6-7 ans, et ils sont à fond dedans. Mais ça, c'est entre les cours. Donc, quand ouais, tu fais des stages, c'est assez marrant parce qu'ils en parlent de ces univers-là. Donc, c'est bien pour se greffer à eux et de parler un petit peu de leur univers. Comme on disait tous, quoi, ben c'est de... mais un peu de s'immerger dans leur univers, leur façon, quoi, donc.
Après, j'enseigne à des enfants et je m'en inspire pas forcément pour les cours, quoi.
Mmh. Ouais. Ouais, moi non plus. J'ai pas assez de références aussi, j'ai pas assez de références pop dedans pour que ça fasse tilt chez eux. Donc, il faudrait vraiment être investi à l'intérieur pour pouvoir faire après des références sur lesquelles ils puissent vraiment connaître et s'identifier. Quoi. Donc, ça reste assez compliqué. Quoi.
Alors, je l'ai fait avec mon fils parce que bon, c'est plus facile aussi. Je me suis amusé à lui. Elle lui dit, tiens, tu vois, regarde là, comme en Tortue Géniale, là, il se met en Kokutsu pour faire son kamé. Et puis, il passe en Zenkutsu pour lancer sa boule de feu. Donc, pour lui expliquer un peu le transfert de poids de corps. Je me suis amusé comme ça, mais... mais c'est vrai, quoi. À part ça, avec lui à la maison, ouais, je ne le fais pas forcément au dojo. Quoi. Mmh. Mais pourquoi pas ? Après, il faut savoir s'ils regardent ça aussi, les gamins. Parce que s'ils ne regardent pas ça, ils vont te regarder avec les yeux. Qu'est-ce qu'ils racontent ?
C'est ça. Bon, après, c'est faire preuve d'un peu de pédagogie. C'est quand on lance un peu l'exercice, c'est de sonder un petit peu l'audience pour savoir... alors, qui c'est qui connaît, Tortue Géniale, voilà. Donc, voilà. Donc, si t'as personne qui lève la main, c'est, t'oublies, quoi. Non, mais c'est pas mal. En parlant de culture pop, hein, l'autre jour, j'ai reçu un message. On me disait de parler de culture pop, de culture asiatique et spécifiquement de culture japonaise et qui est liée au Bushido, à l'âme du Japon. Donc le fameux livre, c'est de Inazo Nitobe, donc qui est sorti début 1900. Donc ça fait un siècle qu'il est sorti et c'est un livre qui fait phare et... et donc tout le monde s'inspire par rapport à ça, les films. Donc bon, Le Dernier Samouraï est vraiment très largement inspiré de ce livre, etc. Et le problème, c'est que ce livre a réécrit l'histoire, en fait. C'est que souvent, on pense que le Bushido est réellement implanté dans les castes, que chacun avait un petit peu son carnet avec les préceptes du Bushido et qu'il fallait qu'il suive à la lettre, etc. Alors que c'est absolument pas ça. C'est une invention de Nitobe qui a refait ça au fur et à mesure et qui a transféré ça dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, pour faire connaître la culture japonaise à l'Occident, et vu qu'en plus, il avait été écrit en anglais, donc même pas en japonais à la base. Donc, il était fait pour faire connaître aux Occidents la culture du Japon. Et c'est qu'après qu'il a été traduit en japonais, qui a été énormément critiqué par les Japonais, parce que ça, c'était plus des faits historiques, mais qui a été retravaillé, romancé, mélangé avec plein de croyances qu'on a en Occident. Et ça, c'était assez marrant, en fait, de voir comment de très nombreux livres existent encore sur le sujet et qui traitent ça comme si c'était... ancré dans la pierre et que c'était vraiment un code qui était respecté. Il y a pas très très longtemps, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, j'ai un de mes élèves, tout content, il m'a offert un bouquin sur le code d'honneur des samouraïs, Bushido. Donc, un livre illustré avec plein de photos, des dessins. Voilà. Et je suis, ouais, c'est vachement sympa. Mais le côté Bushido, après, donc, je lui ai expliqué. Mais tiens, ah bon, mais je savais pas. Mais pourquoi ils sortent des bouquins comme ça? En plus, il est tout nouveau. Je dis, bah, ouais, ben, c'est que ils ont pris la première surface, en fait. Et ils sont pas allés creuser l'origine, quoi, du mot. Qui n'existait absolument pas avant. Donc, et ça, c'est les questionnements qu'il faut avoir. C'est dans la culture elle-même de la pratique, mais en même temps aussi dans le contexte aussi de la pratique elle-même. C'est souvent on prend Pierre Contant certains mouvements et on se dit ouais mais comment les anciens y pensaient à ce mouvement-là, etc. Mais les mouvements ont vachement évolué depuis. Et donc, pour commencer à se mettre une idée du mouvement tel qu'il était pratiqué avant, il faut remonter à l'époque où il était pratiqué et voir la version qu'il pratiquait à l'époque. Et c'est là où c'est intéressant et que ça devient un travail un peu historique, quoi, de remonter le temps un petit peu pour voir comment il faisait avant, et surtout en Shotokan, quoi. Donc, quand on regarde... Et là, ce matin, j'ai publié sur le forum une vidéo de Goju Shio. Donc, qui existe à Okinawa, en Shorin. Donc, il n'y a pas de dai, il n'y a pas de sho. Hein. Donc, en Shorin, ça n'existe pas. C'est qu'en Shotokan. Donc, on retrouve bien le kata, hein, mais il y a plein de choses qui sont complètement différentes. Et après, dès qu'on commence à les analyser un petit peu, je fais « Ah ouais, d'accord, ça a évolué comme ça. » Donc, mais là, par contre, ça me donne beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'informations par rapport au bunkai, par rapport à la pratique. Donc, c'est intéressant, après, de voir les évolutions dans ce sens-là.
Lionel.
Oui, Gérard.
Ouais, j'aurais une question. Ouais, je viens, il y a une semaine que je me suis procuré le livre sur Jijin Funakoshi, le Kyoan, d'accord?
Oui.
Voilà, j'ai commencé à lire la préface. Parce qu'il faut avoir le temps de lire, de bien se poser et tout. Et est-ce qu'un livre comme ça, moi je pense que c'est très bon pour remonter aux origines, pour remonter, pour s'inspirer, pour regarder ce qu'il faisait avant. Mm-hmm. Je pense que c'est un bon outil, évidemment, ça coûte 55 €, d'accord, tout le monde ne peut pas se... Bon. Mais je pense que des fois, d'acheter un livre comme ça, ça peut servir à beaucoup de choses, d'après moi. J'ai commencé juste à le lire, hein, parce que j'ai suivi ton toi, tu le conseillais, ce livre, il faut qu'il fasse partie de notre bibliothèque de Karate Camp. Voilà, parce que moi, j'ai quelques bouquins. J'en ai un autre sur Ousrout, le deuxième ou le troisième volume. Voilà, mais je pense que des bouquins comme ça, à mon sens, ils sont très intéressants pour apprendre beaucoup de choses. Et est-ce qu'un bouquin comme ça, on ne peut pas apprendre des choses sur la culture japonaise, sur ce livre de Jijin Funakoshi?
Alors si, tu vas en prendre, et après c'est dans un temps, dans le temps. Il faut dire que Karate Do Kyoan, il a été édité en 1900.
Oui,
ouais, donc, voilà. Au début 1900, et c'est quand Funakoshi, après il était à Tokyo et qu'il est resté à Tokyo. Ouais. Donc, tout ce qu'on peut apprendre sur la culture japonaise, et avec un mélange okinawanaise, parce qu'il était fortement imprégné, quoi, de culture okinawanaise, même s'il a vécu après tout le reste de sa vie sur Tokyo, et ça a changé beaucoup sa pratique et sa forme de transmission. Mais ça nous donne des informations sur ce côté historique à ce moment-là précis du temps. Donc, dans ces décennies-là. Donc c'est intéressant dans le sens où c'est l'origine de notre style. Donc vraiment la naissance du style.
Oui.
Mais pas la naissance du courant. Le courant est bien plus ancien puisqu'on descend après beaucoup plus tard. Donc ça descend après. Donc on va sur du Shorin, etc. Et donc plus on va continuer à descendre, plus on va s'apercevoir de choses différentes. Est-ce que ça veut dire qu'avant c'était mieux, etc. Non, parce que à chaque évolution, il y a une évolution et il faut faire la part des choses, de savoir pourquoi elle a été faite, d'essayer de comprendre pourquoi elle a été faite, dans quel sens, dans quel but. On comprend bien aussi que Funakoshi, lui, il a fait beaucoup de choses. C'est dans le sens du développement du karaté pour l'implanter au Japon et surtout pour éduquer le peuple et pour les faire bouger. Et donc c'est pour ça que l'entraînement est devenu un entraînement de masse et plus un entraînement et un enseignement spécialisé avec très peu d'élèves, chose qui se faisait à Okinawa naturellement. C'est là où il y a eu un énorme changement en fait dans la transmission. Donc forcément, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de principes qui ne sont pas passés à travers le filtre du travail de masse. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont perdues avec ce filtre-là. Donc c'est intéressant de voir que lui faisait toujours certaines choses, comment il le faisait à l'époque.
L'anthropologie, c'est intéressant, c'est très très intéressant. Je pense qu'un
Voilà,
bouquin
c'est la première étape. C'est la première étape dans le retour vers le passé.
pour répondre aussi à Gérard, c'est un très bon livre, hein, le Karate do Kyoan. Mais comme disait Lionel par rapport au Bushido, il y a aussi un filtre, il y a aussi un biais dans ce livre-là, un biais culturel et par rapport à la société, à la volonté de l'auteur, qui ne reflète pas exactement totalement la vérité historique. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont romancées, même dans ce livre-là. Alors c'est intéressant des fois quand même d'y revenir parce qu'on voit que entre ce que lui il a écrit à l'époque et ce qu'on a entendu aujourd'hui, déjà entre les deux, il y a des choses qui sont transformées, qui ont été romancées entre-temps, et des informations qui sont perdues, mais lui-même, déjà, on voit qu'il y a des choses qui sont romancées. Un des exemples typiques, alors je ne sais pas si c'est forcément dans celui-là, mais dans différents écrits de Funakoshi, quand il parle de ses maîtres, il y a un peu cette idéalisation du maître, de la personne qui est au-dessus de toi, et des exploits accomplis par cette personne. Sont illustrés sous un biais différent, par exemple dans les livres de Jean-Charles Juster. Lui a repris, a fait une approche un peu plus historique pour vérifier un peu tous ces faits-là, et on découvre en fait un peu le revers de l'envers de la médaille, enfin une version un peu différente, un peu plus historique. Donc il faut aussi se méfier un peu, je pense, des fois de la littérature, que ce soit la littérature japonaise ou même occidentale, parce qu'il y a des fois voilà des choses qui ont été romancées et embellies.
Ah, mais tout à fait. De toute
Donc,
façon, c'est l'écrit a toujours permis de transformer la réalité pour la réécrire. Et on le sait tous, quoi. Les livres d'histoire, elle est écrite par les gagnants, quoi. Donc ça fait penser, pour revenir au monde cinématographique, les deux films de Clint Eastwood sur la guerre au niveau du Japon, où il prend à partie les deux camps. C'est La mémoire, mon père. Et c'est quoi l'autre? Ça y est, j'ai perdu. Et donc, il y a deux films, en fait, qui sont vus complètement différemment pour le même moment de guerre, mais vus sous un point et un angle différent. Donc, il a été vu sous le côté américain, et après, il a été vu sous le côté japonais. Et on se rend compte, en fait, que c'est pas vraiment la même histoire, même si le fond est exactement le même. Le fond est le même, mais après, l'histoire qui est racontée par-dessus, elle est complètement changée. Et c'est ça le boulot de gens qui sont historiens, c'est pas de juste s'appuyer sur un écrit, mais de s'appuyer sur beaucoup d'écrits pour pouvoir se faire des croisements et chercher les points communs. Et s'ils sont communs, donc à partir de là, on peut dire que c'est un fait et non plus juste une exagération ou une mise, être embelli par l'auteur. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que c'est important dans toute la littérature, comme tu disais, Fred, c'est de faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on voit, ce qu'on lit plus. Après, ce qu'on voit, c'est un peu plus facile. Après, on voit des photos, bon, ben, on voit des photos de Funakoshi travailler. Bon, on sait absolument pas le contexte dans lequel il était en train de travailler, pour qui c'était fait, etc. Donc ça, on peut que le à peu près savoir, mais ça nous donne une idée. Mais tout ce qui l'entoure, en fait, on n'a pas vraiment de certitude dessus. Quand on voit Motobu Sensei travailler, c'est pareil, c'est dans les livres. Malgré que ce soit raconté et que JC, c'est le reprenne avec avec les descendants de Motobu Sensei, donc qui racontent. Mais on sait tous que on raconte les faits d'armes, etc., ou les grands faits de nos familles, etc. Au bout d'un moment, il y a plein de choses en fait qui changent et qui s'embellissent parce qu'on les raconte et ça se romantise, etc. Ou ça s'embellit, mais c'est normal, c'est normal et c'est l'être humain, c'est sa façon de transmettre aussi les histoires. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de pouvoir voir les photos et voir les évolutions. Quand on voit Motobu Sensei passer d'une photo à une autre, ok, donc on sait réellement que dans la pellicule, elle se suivait, etc. Donc ça a été fait en séquence. On peut se dire que ça, c'est enchaîné. Mais à partir d'un moment, on a l'impression qu'il manquerait des photos de remise en garde parce que ça devient plus cohérent dans l'enchaînement. Et c'est là où il faut faire attention, il faut faire preuve quoi de regard dans le travail pour se demander est-ce que dans cet enchaînement-là, ça serait pas un nouveau avec une reprise de garde, un rechangement ou tout simplement une autre forme de hipponkoumité où le gars il est ressorti vu qu'il a pris un taquet, il est ressorti et ça recommence. Donc, alors que ça peut être pris à la lettre et je dois faire de A à Z tout et tout doit être enchaîné. Et là, ça devient comme un Renzoku Bunkai, donc les Bunkai enchaînés, qu'on retrouve beaucoup à Okinawa, et qui n'ont plus de sens parce que il n'y a pas eu de reprise de garde. Alors que quand on les voit travailler en Renzoku Bunkai à Okinawa, il y a toujours des enchaînements, et ils reprennent la distance et ils recommencent, comme si c'était plusieurs combats. Donc plusieurs assauts dans un grand combat. Donc c'est là où il faut... naviguer et expérimenter surtout.
Ouais. Et on voit le bon cinéaste lyonnais là.
De quoi ?
On voit tes compétences en cinématographie, comme tu fais les montages et tout. Tu arriveras mieux à lire les images.
Pas forcément. Il faut apprendre à regarder. C'est la culture.
Par rapport à ce que tu viens de nous dire, ça va me permettre d'apprendre à mieux cerner les images. Voilà.
Mmh. Ouais. Ouais. Erwan.
Ouais. Voilà, d'accord. Je comprendrai mieux le sens des images, des photos. Ouais. Par rapport à ce que tu viens de nous dire. Intéressant.
C'est ça. Ouais. Erwan, tu as quelque chose à rajouter ?
Non, c'est vrai que j'ai jamais trop travaillé sur les vieux documents, les documents de Maître Funakoshi ou quoi que ce soit, mais ouais, effectivement, faut être vigilant avec les images qui voulaient bien nous montrer de l'époque, quoi.
Mmh.
Parce que bon, il y a toujours ce côté de dire ouais, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais tu sauras peut-être mieux que moi, mais ouais, ou les écoles justement montraient des fausses techniques pour faire croire que c'est comme ça qu'il faut faire, et puis finalement ils faisaient différemment en interne.
Ah, mais c'est une réalité ça.
Ouais, c'est ça. Donc,
bon. Moi je le sais parce que bon, ça existe vraiment, vraiment en Chine, parce que je l'ai vécu, donc à Wudang, et en discutant et. Je fais, bon, ben voilà, on était en train de travailler une forme avec le maître Limin, et à côté, il avait un autre groupe qui est en train de travailler la même forme, mais il y avait des différences. Donc, au bout d'un moment, je fais, mais pourquoi il y a des différences? Donc, je commence à lui poser la question. Il dit, oh, mais eux, ils sont juste là en vacances aux touristes, ils ne pratiquent pas vraiment, ils ne viennent pas régulièrement, donc je leur apprends une forme, comme ça. Mais comme ça, ce n'est pas la forme originelle. Je dis, mais pourquoi ? Je dis, ben comme ça, quand quelqu'un les verra travailler et qui fait partie de la vraie famille, ils sauront qu'ils ont appris juste comme ça et qu'ils n'ont pas fait une vraie formation. Voilà, ça c'est véridique. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Donc, et ça permettait de vraiment voir qui c'est qui faisait partie de la lignée, qui c'est qui ne le fait pas. Parce que ils n'ont pas le même enseignement. Mais comme tu disais très justement, c'est toutes les images qui ont été, toutes les premières images de maître comme Nakayama Sensei, c'est où on voit sur YouTube, il suffit de chercher c'est les applications, il fait un bunkai contre deux partenaires, alors je crois que c'est en dessous, où il fait les applications de Nakayama, quoi, de un bunkai de en dessous. Mais c'est de la première lecture. la lecture pour transmettre à aux gens quelque chose, pour leur dire, bon, ben voilà, ça peut servir à ça. Mais quand on réfléchit un petit peu, quoi, et vraiment pas longtemps, quand ça fait un moment qu'on pratique, on se dit, mais c'est irréalisable. C'est même les bunkai, quoi, de compétition, ils sont presque plus réalisables, quoi. Donc, il y a vraiment, il y a beaucoup de choses, quoi, qui naviguent, et il faut être vigilant là-dessus.
C'est un peu dommage, je trouve, cette façon de le faire. Je comprends le désir qu'il y a de pas vouloir, de vouloir un peu garder secret, garder pour soi la connaissance et de la transmettre vraiment aux gens qui sont méritants. Mais le problème, c'est que souvent, c'est fait en sorte où, du coup, on donne une fausse information. On détourne la vérité. Alors qu'on pourrait très bien donner un niveau de lecture qui est simplifié, simpliste, mais qui reste toujours vrai. Et dire, là, je lui donne juste quelque chose de surface, mais qui est quand même véridique. Et parce qu'après, le problème, c'est que cette personne-là, souvent, elle prend pour argent comptant ce qu'on lui a dit, elle va ailleurs, et elle retransmet, et de fil en aiguille, mais comme ça, on diffuse en masse des choses qui sont totalement fausses. Alors que vous pourrez juste rester sur des choses simples qui sont véridiques. Au moins, les personnes qui ont la connaissance plus avancée, elles l'ont toujours, mais on ne pollue pas non plus avec des choses totalement fausses, parce qu'après, au final, ça dessert la discipline.
C'est regarder en même temps dans le contexte actuel qui est aujourd'hui. Là, maintenant, c'est assez rare. T'as des écoles, tu vois, vraiment de lignée où ils sont avec les taoïstes, etc. Les taoïstes, les bouddhistes, etc. Ils ont toujours, tu vois, cette lignée, quoi. Donc, ils ont une lignée pour les initiés et une façon d'enseigner pour les autres. Mais ça a toujours existé, quoi. Donc, une façon d'être avec les gens qui les suivent et les autres d'à côté. Ceux qui les suivent d'un peu plus loin. Mais pour reprendre, par exemple, au niveau karaté, et si on le remet côté historique, par exemple, le Lui Chi-ryu est extrêmement implanté aux États-Unis. Parce que, Deuxième Guerre mondiale, base militaire à Futenma. Futenma, c'est le berceau du Lui Chi-ryu. Et c'est là où enseignait le Lui Chi-ryu. Et donc, il y avait énormément de GI qui venaient s'entraîner au Lui Chi-ryu, juste après la Seconde Guerre mondiale, où les Japonais avaient été humiliés dans leur défaite par rapport à l'Empire, donc avec leur point de vue. Et de là, il faut enseigner leur art local au vainqueur, à l'ennemi. Donc, se mettre... et ça a été très, très compliqué. Moi, quand je discutais avec Takashi Kinjo Sensei par rapport à ça, il disait, mais il y avait plein de GI. Donc, il faisait travailler. Donc, il changeait pas les formes, mais il leur donnait absolument rien à l'intérieur de comment faire, comment y arriver. C'est que au fur et à mesure, en fait, que t'as des gars qui étaient là, des GI... qui sont arrivés, après ils sont repartis aux États-Unis, ils ont travaillé, ils ont commencé à enseigner, et il y en a, ils sont jamais revenus. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont revenus au fur et à mesure, et durant les années, ils disaient, mais ceux-là, au fur et à mesure qu'ils revenaient, eh bien, ils avaient un petit peu plus à chaque fois. Et en se rendant compte, en fait, de la sincérité dans la pratique et de vouloir apprendre vraiment l'art tel qu'il était, etc., et de le retransmettre en plus avec la culture okinawanaise, etc., ben là, petit à petit, certains ont travaillé comme maintenant quand tu vas à Futenma, avec un vrai enseignement profond. Mais si tu le remets dans le contexte historique, juste après la Seconde Guerre mondiale, ben tu peux un peu comprendre en fait qu'ils n'avaient pas vraiment envie, quoi, de leur montrer leur truc sur place, quoi. C'était pas possible pour eux. Ils avaient leur forme de combat, c'est tout ça, mais ils ne voulaient pas la partager. Donc c'est... Il faut vraiment faire attention à ce côté remise en question de l'histoire. Où est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Quel était l'état d'esprit des deux camps pour essayer de percevoir, hein, parce que bon, percevoir, hein, parce qu'on peut pas être à la place des gens qui étaient sur place, hein, donc c'est essayer de percevoir et de comprendre un petit peu les faits et gestes de chacun, quoi, et on arrive à le comprendre un petit peu. Tout comme la poussée en Chine, c'est des arts martiaux de Shaolin et de Wudong. C'est exactement la même chose. Ils ont quasiment tous été éradiqués pendant la révolution culturelle. Mais tous, quoi, tous les temples, tout était brûlé, etc. Et donc les archives, les papyrus russes, tout ça, tout a été brûlé, quoi. Donc il restait que très très peu de gens. Et après, il y en a qui sont enfuis, qui sont partis à Hong Kong. Donc après, tu as toutes les versions romancées, etc., qui ont fait que... Il y en a d'autres qui ont fui vers le sud, qui sont partis vers le Vietnam, et donc, etc. Mais... Et après, il y a eu un changement politique qui a fait que, ouais, mais bon, on s'est rendu compte que ben, le taoïsme, c'est le bouddhisme et les combats, c'est quand même bien quoi pour montrer notre supériorité au reste du monde. Donc, il faut les mettre en avant. Donc, et c'est là où ils repoussent les gens à aller travailler, à aller faire. C'est pour ça que à Shaolin, il y a 3000 personnes qui y vont. Et donc, tu as je sais plus combien d'équipes de démonstration de Shaolin qui existent. C'est un truc faramineux. Tu en as un par pays, quasiment. Donc, est-ce qu'il y a autant de moines réels de Shaolin? Bah, pas vraiment. C'est juste des équipes de démonstration du folklore de Shaolin où ils performent. Ça n'enlève pas les qualités techniques et physiques, etc. Et le taoïsme, c'est exactement la même chose. C'est, ils poussent à retrouver leurs sources dans le taoïsme, parce qu'il est dit que le taoïsme, c'est la Chine, et que la Chine, c'est le taoïsme. Parce que c'est une des choses les plus anciennes. Et comme ils sont très liés à la médecine traditionnelle chinoise, et qui est que sur une base de taoïsme, du Tao, donc c'est pour eux, c'est top. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Donc après, il y en a beaucoup maintenant qui essayent de récupérer les choses et de remettre ce qui était fait avant et qui font un travail de recherche aussi par rapport à ça. Ça reste compliqué, hein. Ça reste super compliqué. Dès qu'on s'attache à regarder un petit peu en arrière, on se rend compte que l'humain, c'est fait plein de choses, quoi. Ouais. C'est pas linéaire, quoi. Ça serait beaucoup plus simple. Ça serait beaucoup, beaucoup plus simple.
Compliqué l'histoire.
Ben, c'est comme chez nous en France, hein. Quand tu regardes l'histoire, c'est compliqué, hein. Quand tu vois les années que tu passes à étudier l'histoire de France à travers les siècles, tu te dis, bon, mais ok, en Chine, c'est exactement la même chose. Hein. C'est très, très, très vieux pays, continent, ils ont une histoire de dingue. Le Japon, c'est super vieux. Donc, c'est toutes les croyances, les cultures, etc., mais sont liées à ça, quoi. Tout est lié. Donc, au bout d'un moment, il y a certaines choses que nous, on ne comprend pas parce qu'on n'a pas les clés culturelles et historiques. Donc, c'est pour ça qu'après, il faut y faire attention. Quand ça touche à notre pratique, quoi, parce qu'on ne peut pas avoir de... On peut pas avoir de... Avoir une pratique juste en se disant, oui, je fais comme c'était avant, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas, c'est impossible. Impossible. C'est impossible. On ne peut que juste supposer que...
Après, bon, nous, bon, on fait du karaté, mais enfin, moi, pour ma part, moi, moi c'est côté purement pour faire du bien au corps et sportif, voilà. Mmh. Mais ensuite, point de vue, moi, j'ai aucune, enfin, je m'attache à aucune spiritualité ou voilà quoi.
Oui, non. Après, c'est pas la spiritualité là. C'est juste la connaissance un peu petit peu plus profonde quoi de notre art et de savoir d'où il vient, comment il vient. Ça, c'est la curiosité que chaque pratiquant n'est pas obligé d'avoir parce que ouais. On a tous des
ou croyances, enfin, de taoïsme, enfin, c'est de la religion, c'est de la religion, enfin, de la religion.
Oui, mais après, t'es pas obligé d'y adhérer. T'es pas obligé d'y adhérer. Il y a certaines écoles où t'es obligé d'y adhérer.
Ah d'accord, ouais. D'accord.
Ben ouais, au bout d'un moment, c'est quand tu rentres dans le wudang, c'était taoïste. Donc, si
Obligé
tu
d'y
veux
aller.
devenir disciple, ah, si tu veux être disciple, il faut être taoïste.
D'accord.
Donc ça s'arrête là, quoi. Donc, si tu n'es pas
Ouais.
taoïste, tu ne deviens pas disciple. Donc, tu peux être un élève, mais tu ne seras jamais un disciple.
Ah d'accord. Ah ouais.
T'as des écoles japonaises qui sont très empreintes aussi de zen, etc. Et il faut suivre cette voie-là. Donc c'est comme ça. Après, elles sont marquées quoi, par le côté spirituel, religieux qui peut y avoir. Après, on accepte ou on n'accepte pas. C'est chacun a
Oui,
le
ça.
droit.
Voilà, ouais.
Après, on regarde les arts martiaux philippins, il y a une énorme culture mystique qui tourne autour, quoi. Moi, j'ai rencontré des vieux maîtres, c'est 70 ans, ils essayaient de me revendre leur gris-gris, quoi. C'est des hanting-hanting. Et pour eux, c'est des porte-bonheur qui sont super importants. Et que si tu n'as pas ça, ben, c'est pas bon.
Ah,
Donc, tu vois,
d'accord.
mais
Ah bon.
c'est des croyances qui sont vraiment super anciennes.
Ouais, c'est leur croyance à eux. Ouais.
Ah mais c'est une vraie croyance, hein, quand tu vois que l'autre il te dit ouais mais celui-là il m'a sauvé la vie, il m'a évité de me faire tuer par des balles. J'ai reçu des balles mais ça a ricoché sur mon corps.
Ah ouais, d'accord. Oh
Ah voilà.
non.
Non mais et voilà, mais c'est quelqu'un qui avait combattu dans la Seconde Guerre mondiale.
Ah ouais. Oui.
Malheureusement là maintenant il est décédé.
Oui,
Mais tu peux te dire quand même quoi que c'est pas il y a trois siècles ou 4 siècles où la croyance pouvait être ou non, c'est là de nos jours. C'est juste que c'est la croyance, elle a continué. Et donc t'as plein de trucs qui sont mystiques dans les arts martiaux et en fait c'est vraiment du folklore et avec un mélange quoi de religion qui est lié à ça.
Je
Après,
pense qu'il peut y avoir un
il
respect.
doit y avoir
Certainement,
Attends,
du
attends,
folklore, mais il y a
attends,
aussi.
Gérard, attends, attends, Gérard,
Ah,
Gérard, 2 secondes.
pardon.
C'est
Excuse-moi.
Fred a commencé. Parce que
Bah,
sinon, on n'y arrive pas.
je pense qu'il
Non,
faut
mais
avoir
pardon.
un respect envers tout ça, tout ce qui est folklore et culture au final de ces personnes, sans chercher à juger ou à venir critiquer, s'immiscer. Il faut avoir un respect là-dessus. Après, il ne faut pas se laisser aveugler par ça non plus dans notre culture, nous, occidentale, parce que de toute façon, comme tu disais, on n'a pas tous les outils pour pleinement le comprendre. À part vraiment s'immerger dedans à 100% et se l'approprier culturellement, on n'a pas ces outils-là. Donc, si on veut pratiquer, nous, de notre côté, ces arts martiaux, il faut voilà, être aussi capable de. Des fois, un peu le mettre de côté, enlever un peu tout le côté mystique, justement, pour pouvoir y voir un peu plus clair, mais tout en voilà, respectant leur pratique, leur culture, leur folklore, quand on y est confronté.
Non, mais tout à fait. Tout à fait. Erwan?
Oui, bah je rejoins Fred aussi. Après, de toute façon, on a la culture occidentale qui n'est pas la même. On va pas pouvoir comme ça d'un coup d'un seul croire comme tu disais des gris-gris, enfin c'est pas possible, on pourra pas, ça sera pour nous du domaine du folklore après, mais en effet avec le respect qu'il faut avoir de tout ça quoi.
Non, mais c'est important parce que je discutais avec il y a quelques années, je discutais avec Patrick Rowe, qui a vécu, je sais plus de 10 ans à Okinawa, qui parle très bien japonais, il connaît la culture, etc. Tout ça, mais il le disait, mais même encore, si je comprends pas tout. Il y a des choses, en fait, il y a des subtilités qu'il ne comprend pas, alors qu'il s'est immergé complètement en parlant la langue, etc. Mais parce que on a des cultures qui sont tellement loin. Des façons de penser qui sont complètement différentes et qu'on n'arrivera jamais à comprendre toutes les subtilités. Donc c'est là où on doit faire attention.
Et puis c'est là aussi que le sport est un vecteur intéressant parce qu'au final, enfin, j'aime bien ton dicton qui dit pour être pratiquant, il faut pratiquer. Et ça résume assez bien au final qu'au-delà de la culture, au-delà du folklore et tout ça, tout passe par le corps et on se rejoint tous à ce niveau-là. Donc s'immerger dans la pratique, c'est encore le meilleur moyen de casser les barrières qu'il peut avoir culturellement, socialement. Et de retrouver aussi ben, ce qui a parfois pu être perdu, parce que quand on s'immerge dans la pratique, on considère que le mouvement, la technique, enfin le corps, il y a plein de choses qui sautent et on peut réussir à retrouver au final l'essentiel.
Ouais, parce que le corps lui-même, même si on remonte à que 3 siècles, le corps humain, il n'a pas trop changé, hein, donc il fonctionne toujours pareil. Donc, les résistances, les forces, les points de force, etc. Donc, bon, après, si tu remontes aux hommes de Cro-Magnon, donc les consistances, la consistance humaine et physique et les puissances étaient un peu différentes parce qu'il y avait besoin. Mais donc, l'homme a évolué, mais en milliers d'années. Donc, quand on regarde aussi proche dans l'humanité, s'il n'y a pas eu de changement, donc c'est vrai que. C'est en pratiquant, on arrive à communiquer avec les gens et on arrive à rester dans ce qu'on recherche. Erwan, est-ce que tu as une question aujourd'hui?
Non, après, on peut se rebondir par rapport à l'article que tu as
oui.
Bon, invité. par rapport à l'article que tu as écrit là, sur le Yomi.
Oui.
C'est plutôt intéressant. Même en termes de démarche, de pratique, puisque finalement, ce qui va faire de nous de bons pratiquants, de bons combattants, c'est notre capacité effectivement à développer Yomi, quoi, et l'intention de l'autre. Mais après, c'est vrai que j'aime bien ce que tu as pris, toi, l'image de la voiture, où effectivement, on développe des compétences, des réflexes. Qui vont être déconnectés finalement de la pensée à force de conduire, parce qu'on pratique, enfin voilà, à force de conduire, à conduire, le corps il apprend tout seul, enfin il apprend à avoir des réflexes inconscients. Et finalement, il faut qu'on arrive à développer ça aussi dans notre pratique. Mais pour développer ça, il faut quelque part des éducatifs réguliers, récurrents, routiniers pour y parvenir. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand on pratique 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine du karaté, et qu'on cultive pas ça, on développe pas cette compétence-là, quoi. Donc, tu vois, l'idée, c'est quoi? C'est justement quelle piste tu as, toi, pour peut-être développer cette compétence, quoi. Est-ce que toi, tu as une routine? Est-ce que toi, à chaque cours, tu dis, je prends toujours les 10 minutes nécessaires pour travailler cette compétence?
Pour arriver à Yomi, qui est une chose qui est dans sa globalité, c'est il faut pouvoir avoir englobé toutes les notions, quoi, de Gonosen, Tainosen, Senosen, pour pouvoir après arriver à ce temps-là. Et il n'y a que à travers ça, avec ce passage de l'un à l'autre en permanence, qui va permettre en fait au corps et à l'esprit de continuer à avancer et de continuer à bâtir ses compétences. Parce que le cerveau, reconnaît en fait les situations qu'il connaît. Donc c'est pour ça que on refait toujours les mêmes erreurs, parce que le corps il reconnaît et donc il court-circuite le truc et il va faire la même chose qu'il connaît. Donc c'est pour ça qu'on met 3 jours en fait à enlever un truc qu'on a déjà intégré. Donc c'est le problème des erreurs récurrentes. Et donc c'est pour ça que on doit entraîner le corps, lui, dans ce sens-là, à lui apprendre sans arrêt en fait à revenir sur les mêmes situations, mais à utiliser ces mêmes compétences dans des situations différentes. Donc on va travailler du Gonosen, par exemple. Moi, je travaille surtout quand j'enseigne, je travaille en général sur un cours avec un grand principe. J'ai un grand thème. Aujourd'hui, je vais travailler la verticalité. Et ça, je vais travailler pendant 15 jours, je vais travailler sur la verticalité. Mais la verticalité, c'est je vais pouvoir la travailler à travers le kyon, à travers le kata, à travers le hippon kumite, à travers tout ça, mais toujours en accent, en mettant un accent spécifique sur la verticalité dans tous ces exercices pendant le mois. Et le mois d'après, je vais passer sur une autre qualité, c'est le transfert de poids de corps, par exemple, qu'on peut retrouver partout. Mais en même temps, à l'intérieur de tout ça, dès qu'il y a un travail à deux, en plus de ça, je rajoute une seconde couche. Donc un travail qui va toujours être vers du travail Gonosen pour pouvoir aller de plus en plus vers le Sanonsen. Et donc de toujours habituer le corps, on a travaillé un Kyon, mais on va le passer en travail à deux. Et donc de là, on va le faire d'abord en forme Gonosen, ce qui va me permettre de retrouver un petit peu mon Bunkai, mon Kyon, avec mon partenaire sans prise de risque. Donc pour laisser le corps intégrer le mouvement et surtout au cerveau, lui laisser le temps pour ne pas avoir de temps d'interruption, donc de ne pas faire Itsuki, donc d'arrêt. Et une fois que ça c'est bon, et suivant le niveau de chacun, mais je passe au niveau suivant où on va commencer à intégrer en plus le côté Tainosen, où je vais avancer en plus à l'intérieur, donc je vais faire bouger le corps en plus pour prendre un temps sur l'intention. Donc avoir une meilleure lecture de départ, donc un meilleur yomi, lecture de départ par rapport à ça. Mais tout en gardant une attaque codifiée. Et petit à petit, tu changes ton attaque codifiée. Tu dis, bon, ben voilà, maintenant, on va faire sur cette attaque-là et cette attaque-là. Vous avez vu que quand on le fait en Gonosen, ben c'est exactement la même chose. Mais maintenant, on va le faire en Senosen. Et lui, il va choisir quelle attaque il va faire. Donc là, on développe encore plus la compétence et la visualisation de la chose qui va être faite.
Donc ça, c'est quelque chose que tu fais quasiment systématiquement, quoi.
Je fais très, très régulièrement. Ouais. Moi, c'est très rare que je fasse un cours qui soit que axé sur du travail seul. Ça m'insupporte.
C'est vrai qu'on va faire du voilà de l'hypocomité voilà, enfin, en tout cas sur des attaques prévues mais c'est bien de le faire, mais effectivement après il faut passer à l'autre étape si tu veux développer le yomi. Tu vois là moi je sais qu'on il y a le jiu hypocomité qui est sur les passages de grade. C'est vrai que c'est un exercice que voilà qu'on ne fait pas assez souvent. Mais quand tu te commences à devoir rebosser dessus pour le passage de grade, tu dis putain.
Oui, il y a des manques.
Quoi. Mais après, c'est la pratique.
Hein,
c'est...
Ben, je suis d'accord.
Ouais.
Toujours rabâché. Mais après,
c'est rabâché, mais après, il faut que ça te serve suivant le niveau. Par exemple, si tu as un cours et tu fais du Kyon, il pompe. D'accord. Le truc, les attaques sont ultra prévues, tu sais ce qui arrive, dans quel ordre. Donc, surtout que suivant les dojos, c'est. Jodan, Chudan, Maigeri, Yoko et Mawashi, mais dans l'autre dojo, c'est le Mawashi avant et après le Yoko. Donc tu vois, mais tu sais exactement ce qui se passe tout le temps. Et salut. Et donc ce qui est vachement intéressant, c'est de pouvoir après arriver à ton Kyon Ippon et de dire bon ben voilà, on va commencer tranquillement. Maintenant, vous allez attaquer soit Jodan, soit Chudan et vous allez faire la réponse appropriée. Donc apprenez à regarder. Ça fait un quart d'heure que vous le faites. Mais vous savez exactement ce qu'il fait. Est-ce que vous avez commencé à regarder comment il partait, comment il attaquait? Est-ce que vous avez commencé à décrypter un petit peu son attaque? Oui ou non? Si c'est non, mais quand on va leur dire, bon, ben voilà, maintenant vous attaquez soit Jodan, soit Shudan, et tu fais la riposte du Kyon Ippon Kumite qui est prévue. On ne change pas ça. Mais par contre, on change la donnée de départ.
Ça met de l'incertitude.
Et ça t'oblige en fait à regarder, à décrypter et donc à développer, comme on disait, ton Yomi. Et puis tu rajoutes au fur et à mesure. Tu dis, bon, ben voilà, bon, ben c'est bien. Là, tu arrives, c'est bien. Ben, maintenant, on va rajouter le Maigeri. Etc. Après, tu mets ton Mawashi, tu mets ton Yoko, et tu restes toujours sur un travail de Ippon Kumite, mais tu l'as poussé plus haut. L'avantage, c'est qu'une fois que tu pars là-dessus, dès que tu passes en Jo Ippon Kumite, t'es déjà habitué, en fait, à ça. T'es déjà habitué. Parce que t'as déjà cette incertitude et ce travail de lecture. Donc tu développes cette compétence au fur et à mesure en mettant la personne en face, en lui disant bon ben voilà, maintenant ici il faut que tu réagisses par rapport à ce qu'on te donne. C'est, il faut que tu réagisses par rapport à un problème donné. Il ne faut pas que tu aies la solution dès le départ. Ça c'est bien pour commencer, pour apprendre à forger le corps. Mais une fois que t'as forgé ton corps, que tu sais ce qu'il faut faire, maintenant il faut le mettre en mouvement et qu'il s'adapte à la question en face. Et la question c'est l'attaque. C'est pour ça qu'en Bunkai, quand je fais travailler les Bunkai, je fais bon, ok, d'accord, ça c'est bien. Mais si tu changes de jambe et que tu fais le même coup de poing, comment tu fais? Et là, ah, oh, mais je sais plus. Voilà. Et tu vois, je lui dis, mais refais exactement ce que tu fais. Tu fais la même chose, il attaque l'autre point. C'est toujours la même trajectoire, etc. Mais laisse aller. Et là, tu bloques. Ok, là, tu bloques parce que ben, là, de ce côté-là, tu pouvais faire ça, mais là, tu peux plus. Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Donc, tu amènes l'autre, en fait, à s'adapter au fur et à mesure. Et non pas d'être dans un système qui connaît de A à Z. Et ça, c'est le problème. Tu peux pas développer les compétences de Taino-sen, Seno-sen, donc de Yomi, sans passer par ces cases-là. Et plus tôt tu le fais, mieux c'est. C'est moi, le travail de Kyon Hippon Kumite, tu vois, où je varie, je le fais régulièrement, tu vois, à partir de ceinture orange-verte. Voilà, les gars, même s'ils savent pas, s'ils savent bien faire le Jodan, Shudan et Maigeri, que le Mawashi Yoko, en général, c'est vraiment à partir de ceinture verte que je commence à l'intégrer. Avant, je leur demande que Jodan, Shudan et Maigeri. Mais par contre, après, quand on le travaille, je leur demande de changer les attaques. Et c'est là où ils développent, dès le départ, des compétences. Ils apprennent à regarder. Donc de pouvoir savoir où est-ce que je dois partir. Mais ça c'est pas nouveau, parce que quand tu regardes par exemple dans le travail de Sambon ou de Gohan, tu peux faire exactement la même chose. Mais pour le simplifier, d'abord tu fais sur un travail de Gohan avec un rythme. Donc tu fais 1 2 stop, 1 1 2. Donc ça fait 5 attaques. Toujours le même Ozuki Jodan. La fois d'après, mais tu changes un peu, tu fais 1 2, 2, tu vois, où, et tu mélanges, tu commences à mélanger pour habituer l'autre, en fait, à essayer de se s'harmoniser au rythme de l'autre. Et après, au bout d'un moment, mais tu lui dis, bon, ben voilà, maintenant, t'attaques le rythme que tu veux. Et toi, en face, tu dois t'harmoniser. Là aussi, on rentre, il est obligé de regarder l'autre, il est obligé de ressentir l'autre dans ce qu'il fait. Sinon, c'est impossible. Il va être dans son propre rythme, dans sa propre réflexion, dans son propre mouvement, et rien ne va se passer derrière. Et il a besoin de ça, en fait, de s'accorder à l'autre, et pas inversement. C'est pas l'attaquant qui va s'accorder au défenseur. C'est pas possible, comme ça.
Okay. Ça, c'est quelque chose que tu fais, voilà, quasiment...
Très, très régulièrement. Je fais la partie classique, vraiment... Tu vois, classique, je veux dire, traditionnel, où on respecte le protocole. Et une fois que le protocole, en fait, il est rentré, je sors du protocole. Je rajoute des incertitudes dedans, que ce soit dans la technique, dans le rythme ou dans le mouvement. Parce que quand on fait du Hippon Kumite, qu'on est tous les deux en garde, ben c'est pareil, tu fais ton Hippon Kumite, mais t'as deux partenaires... Ils sont l'un à droite et l'un à gauche, mais par contre, tu sais pas lequel va t'attaquer. Mais tu dois, ils vont respecter l'ordre de ton Hippon Kumite, mais par contre, tu sais pas lequel va t'attaquer en premier. Donc, par rapport à ta position centrale, il va falloir que tu adaptes ta position à l'attaque qui va te venir. Soit un petit peu à 45 à droite, un peu 45 à gauche. Donc, il va falloir que tu t'adaptes. Et ça te permet vraiment de t'adapter après dans le travail de Jū Hippon Kumite, parce que tu apprends à visualiser, à t'adapter en permanence.
Là, c'est intéressant. Et toi, Fred, c'est pareil, tu, ce type d'exercice, les choses que tu fais aussi dans ton dojo
Après, voilà, c'est beaucoup de travail. Alors, j'ai peu de ceintures, beaucoup de ceintures couleur jaune, orange, pas beaucoup de ceintures au-delà. Donc, le travail est un peu plus simplifié, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'on fait du kyon hippon kumite, parce qu'il faut quand même mettre en place tout le travail de avant d'arriver sur l'yomi. Moi je fais référence au livre de j'ai perdu son nom, Lionel, tu dois savoir de qui je parle, le japonais qui vit en France.
Tokitsu.
Il a écrit un livre justement là-dessus.
Tokitsu, oui.
Oui, Tokitsu, voilà, Kenji Tokitsu. Et il met bien en avant dans son livre qu'avant d'arriver au Yomi, il y a différentes étapes qu'il faut maîtriser. Une des premières, c'est la maîtrise du Mai. Donc, il y a tout ce travail-là déjà à mettre en
place. Mai, Yoshi et Yomi.
Donc déjà, être dans la distance, après être dans le temps, réussir à ce que les partenaires, au fur et à mesure, soient dans le temps comme ça. Et puis après, amener de l'incertitude et multiplier les situations. En fait, je pense qu'il faut petit à petit que les pratiquants se créent un panel de techniques, de situations qu'ils peuvent réutiliser. Et après, il faut aller de plus en plus multiplier ces situations-là en ajoutant de l'incertitude, comme dit Lionel. Donc, typiquement, un truc qui ne marche pas forcément en cuir de mobilité, ça peut être en combat aussi. Ça peut être sur du travail de combat dynamique de cible. Hop, une situation, le partenaire choisit où il met la cible et il faut s'adapter rapidement, faire un mawashi ou un uramawashi, un yakutsuki. Déjà, ça demande un travail d'adaptation pour reconnaître la situation par rapport à comment le partenaire réagit, qu'est-ce que moi je peux déclencher comme situation. Après, on peut le travailler aussi en pure incongruité. Et après, c'est surtout multiplier, voilà, comme on dit, les situations, varier les partenaires. Ça, c'est plus on avance qu'il faut l'accentuer. Quand on travaille sur les incongruités pour les deuxième, troisième dames, quatrième dames, où là, on ne connaît pas du tout l'attaque qui nous arrive dessus. Bah, il faut en avoir mangé, quoi. Il y a rien
d'autre. Oui, c'est ça.
Là, on n'est même plus sur le fait de je travaille une technique, je laisse au partenaire choisir entre haut et bas, ma machine, ma guérie. Non, là, c'est, il faut vraiment avoir pour monter crescendo en fait sur qu'est-ce qui, enfin, avoir le plus d'expérience possible pour qu'en fait le corps s'habitue à reconnaître. C'est comme les personnes qui sont capables en interrogatoire de lire en face d'eux, c'est apprendre à reconnaître les micro-expressions du corps pour anticiper, pouvoir réagir. Sans ça, c'est impossible. Il faut y aller graduellement, amener ça petit à petit, amener de construire un panel technique, amener de l'incertitude au fur et à mesure, je pense, comme dit Lionel, et puis après en faire toujours de plus en plus. Ça devienne automatique et qu'on n'ait même plus à réfléchir.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment à ritualiser quasiment à chaque cours.
Après, c'est... voilà, tu as plein d'outils pour l'amener. Tu as le Kyon Ippon Kumite, tu as le jusqu'au Ju Ippon Kumite. Après, c'est pareil, tu as le combat. Un truc qui marche bien, je trouve, pour amener justement le mail, le rythme, être dans le bon tempo, dans le bon temps, c'est justement via le combat parce que c'est beaucoup plus dynamique que le Kyon Ippon unité traditionnelle où c'est souvent très saccadé quand les participants commencent. Alors qu'en combat, de suite, ils sont un peu plus déliés et on est sur un rythme plus naturel, un peu plus musical même des fois où ça va faire 1, 1, 2, 1, 2, 3, comme ça, et où on est sur des effets de rebond où justement on se laisse plus entraîner dans le rythme. Ça marche bien pour justement capter comment réagir dans le tempo pour les participants.
Le plus important, c'est là, pédagogiquement parlant, on est vraiment dans des situations problèmes. On crée une situation problème à l'autre. Peu importe comment on va lui faire, mais c'est les outils, après, on en a plein, quoi. Il en existe plein. On peut utiliser les outils classiques comme on peut utiliser les nouveaux outils comme des frites, des bâtons, des balles, c'est... Mais c'est à chaque fois, c'est de créer un problème à l'autre pour qu'il puisse le résoudre pour arriver à la bonne information, au bon résultat à la suite. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'on crée une situation à problème. Loïc ?
Ouais, moi je suis venu un peu à l'okinawaïen, c'est-à-dire super à la bourre en essayant de prendre ce que je pouvais prendre.
Non, mais c'est pas grave, t'es déjà avec nous, c'est bien.
Je peux pas tellement faire autrement. Non, vous êtes sur les histoires de tout quoi. C'était quoi la question de départ? Vraiment juste la forme, l'incertitude.
Non, c'était comment pour amener le travail de Yomi dans les cours.
Ah oui, compliqué. Oui.
Eh oui, c'est pour
compliqué,
ça.
Compliqué dans le sens où effectivement on est sur quelque chose qui par essence est impalpable. Déjà, tenter d'expliquer ou d'expliciter un petit peu la notion, c'est déjà un premier pas, je trouve, parce que la recherche, elle est essentiellement personnelle quand même. Hein. Je pense que tu peux, sur ce que tu expliquais, c'était vachement intéressant, mais c'est quelque chose que tu peux même appliquer à plein d'autres exercices à deux. De toute manière, cette incertitude, cette lecture du mouvement... voilà, tout ce que, à quel moment tu peux te permettre justement d'être fait techniquement suffisamment à l'aise pour pouvoir à la fois t'écouter et écouter l'autre. La question, je pense, elle est là aussi. Il faut quand même je rejoins ce que disait Fred à l'instant, il faut une base technique suffisante de toute manière, et un peu de bouteille pour pouvoir, je pense, je pense à appréhender pleinement cette notion-là.
Mais de toute façon, on l'appréhende pas avant, quoi. Donc, il faut des années et des années de pratique. Comme tu disais, Arwan, c'est pour ça que moi, j'avais pris le côté voiture, tu vois, dans mon article pour en parler. Parce que ça parle un petit peu à tout le monde. Et que quand on sort, c'est exactement la même chose. C'est au départ, on sait conduire, ben, on sait faire un coup de poing, on sait faire un coup de pied, je sais sortir, je sais bloquer, tout ça. Mais après, c'est à force de multiplier les situations différentes, mais en faisant les mêmes mouvements. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est que, quoi qu'on fasse, c'est de répéter la même situation, les mêmes aux automatismes, etc., mais dans des situations différentes. Donc, de créer des situations différentes pour retrouver le même acte moteur, mais dans différentes situations. Et c'est ce qu'on fait quand on roule. On roule, on fait toujours les mêmes actes moteurs. Pourtant, chaque fois qu'on prend la voiture, c'est différent. Parce que l'environnement a changé, c'est pas la même voiture, c'est pas le même conducteur, c'est pas le même jour, c'est pas le même positionnement du soleil, tout change en fait, sauf la route elle-même. Donc je sais où je vais aller, je sais comment je dois le faire. Mais par contre, tout ce qui l'englobe est complètement différent. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que, quand je pratique, tu peux reprendre la même chose, le même blocage, le même truc, mais le changer tout le temps en fait son environnement. Et plus tu changes son environnement, plus le gars, en fait, il va s'habituer à toujours avoir le même mouvement, la même situation qui se reproduit, mais avec des petites différences. Et c'est là où il va s'adapter au fur et à mesure. Et petit à petit, il va développer des compétences pour pouvoir lire au fur et à mesure qu'il emmagasinera des informations, que son corps, son cerveau emmagasinera des informations et des situations qu'il a déjà vécues. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir un panel technique énorme pour pouvoir rentrer dedans. Quand tu regardes le kendo, ils n'ont pas un panel de frappe qui est énorme. Par contre, la lecture et la sensation, c'est énorme parce qu'ils ont besoin de beaucoup de pratiques et de mise en situation par rapport aux légères variations du shinai et de la distance, etc., par rapport à l'autre pour pouvoir s'adapter. Et c'est ça, on revient toujours sur les mêmes choses, mais légèrement différemment. Et c'est ce qui permet de travailler.
Ouais, quand je parlais de maîtrise technique, de toute façon, je ne parlais pas de maîtrise d'une panoplie de mouvements, mais justement, déjà, faire une chose bien, le parler avec le kendo, il est très parlant. Ça revient à ce que l'interview que tu as faite avec Pascal Loïdi, justement, d'ailleurs, cette semaine, qui parle très bien de ça. Quoi.
Exactement. Voilà. Parce qu'après que je fasse un outil uke, shudan un petit peu plus haut, qui se transforme en outil forme wado, la forme va être la même. Par contre, j'aurai adapté par rapport à ce qui m'arrive dessus.
Ça, pour le coup, pour venir de là avec un professeur justement qui régulièrement nous disait, mais ok, on fait shuto uke jodan, mais si on t'attaque shudan, tu vas pas faire shuto uke jodan. Donc, c'est une question de logique et effectivement de s'adapter à ce qu'on te propose.
Ou même, j'aime bien. Mais là, il est grand et là, il est petit.
Oui, mais bien sûr. Mais oui.
Ou je l'ai fait descendre avant et donc je le fais plus bas parce qu'il est plus bas. Mais si dans ma forme, je fais que là et que je dois m'obliger, moi, à le laisser comme ça dans mon corps quand je le fais en application, il y a vraiment un gros problème. Il y a un gros clash.
Puis si on est dans le dogme, en fait, pour le coup, des styles et pas dans ce que doit être un art martial, c'est-à-dire adaptable, souple, justement. Quoi.
C'est ça.
Efficace.
Et efficace, donc, par l'occasion. C'est la conséquence.
Bon, mais super, les gars.
Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais j'en profite pour te... Justement, les interviews, elles sont vraiment très intéressantes, je trouve. Parce que c'est une bonne manière de justement d'occuper ce temps qui est contraint par la force des choses. Et que c'est vraiment intéressant. J'ai particulièrement apprécié, moi, pas forcément les interviews, entre guillemets, d'experts qui ont un langage, je trouve, très fédéral, qui parlent plus de cadres, de règles d'attendus par rapport à des examens, etc., que des parcours, comme Loïdie, justement, je trouve vraiment très intéressant. L'interview d'Anselmo était... Je savais un peu son parcours de compétiteur et combattant en Kyokushin, enfin pratiquant en Kyokushin maintenant. Mais je trouve qu'on touche plus au corps de la pratique et à, me semble-t-il, ce qu'on peut nous attendre en termes d'explication, justement, de, en tout cas de vécu, de personnes qui sont passées par là. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Enfin, particulièrement ces deux-là, Loïdi et comment s'appelle-t-il aussi pour le coup, le pratiquant Wetchi, Burgel, hein, Grégory.
Avec oui. Burgel, avec Grégory, oui.
Ouais, hallucinant, quoi.
C'est ça.
C'est assez sidérant, quoi. Donc. Ça peut nourrir en tout cas chacune des réflexions, je trouve, davantage.
Et c'est pour ça aussi que je les ai invités, parce que je sais qu'ils sont, ils ont un parcours déjà très intéressant, mais en plus, ils ne sont pas forcément connus. Donc, c'est des gens, comme tu vois, Romain. Donc, Romain le connaissent, mais la majorité.
Les gens ne le
connaissent plus. Et puis, son parcours est complètement atypique. Et puis, c'est ce qui est intéressant. C'était le but aussi au début, quand j'avais lancé ces interviews avant, c'était de faire rencontrer des pratiquants. Pas forcément des experts. Il n'y avait pas d'experts au début. C'était vraiment des pratiquants. Et je voulais aussi revenir, même maintenant, quoi, avec ça, quoi. C'est faire un peu les deux. C'est vraiment bon, des gens qui ont la bouteille, qui sont anciens, etc. Donc, parce que c'est important de les faire parler, mais aussi de parler d'autres parcours qui peuvent être inspirants aussi, parce qu'ils sont peut-être moins loin ou parce que ils ont un parcours de vie qui est absolument génial, quoi.
Je suis d'accord, mais en termes de contenu, et notamment de contenu de pratique aussi, je pense que ça répond également à certaines attentes, quoi. Donc, donc ça marche, donc merci.
C'est intéressant aussi, parce que donc, il y a eu des interviews avec des experts haut gradés de la fédération, mais je me pose toujours la question, alors oui, en compétition, on voit des femmes, on voit un peu de tout parcours, mais par contre, chez les haut gradés, c'est un peu moins visible. Alors, est-ce qu'il y a des femmes haut gradées, 7e, 8e dan dans la fédération et, elles, parce qu'on voit souvent en stage, oui, des laboratos, on sait quels sont leurs travaux. Par contre, ces autres personnes-là, du coup, un peu plus dans l'ombre, que ce soit des femmes ou pas, hein, ou d'autres haut gradés, on voit un peu moins quel est leur travail et ce qu'ils ont à proposer.
Ah, mais c'est une réalité. Hein. C'est des filles, c'est 6, 7, t'en as, c'est au-dessus, je ne sais même pas s'il y en a une qui est 8.
Je ne sais même pas. Belriti, peut-être, non, je ne suis pas sûr.
Je ne suis pas sûr qu'elle soit 8. Hein.
Ouais.
Donc, ça reste un monde de machos. Hein. Ça, il faut se le dire. Hein. Donc, il faut le dire. Hein,
à qu'à un moment donné aussi, pour évoluer dans les hauts grades, il faut une implication forte auprès de la fédération. Donc, automatiquement, il y a un lien qui se crée avec la fédération si on veut. On
veut
évoluer à ce niveau-là.
Oui, non, mais après, dans toutes les fédérations, parce que bon, là, on parle FFK, mais après, c'est exactement le même dans toutes les autres fédérations, quoi. Donc, il n'y en a pas beaucoup hein, de personnes, des femmes qui sont reconnues par leur père, par les autres maîtres hommes. C'est très rare. Hein. C'est pour ça que quand j'étais au Vietnam, j'ai voulu aller voir cette femme-là, quoi, qui était reconnue comme une maître par d'autres maîtres masculins, quoi. Et qui était respecté, quoi. Donc, voilà. Mais c'est très rare. C'est très, très rare. Hein. Au Vietnam, elles sont deux. À être reconnues au même niveau que les autres.
Encore du boulot.
Oui, il y a encore du boulot. Ouais. Sur le côté humain, ouais, il y a encore du boulot là-dessus. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup à tous. Voilà, donc je vous mettrai là le prochain. Donc ça sera le 23 avril, donc un vendredi pareil, 23 avril.
Merci.
Ouais, merci beaucoup, merci à tous.
Bonne journée.
Ciao.
Merci, voilà. Entraînez-vous bien.
Hein. Ouais, merci. Bon, essayez.
Bah oui. Ciao.